Bonjour. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle. J'ai 21 ans. Et je me lance dans un métier pas facile, qui est le métier de potière ou céramiste, c'est comme on veut. C'est pareil pour moi. Voilà, alors j'ai fait 2 ans de formation, 1 an de stage chez des potiers, où j'ai appris à tourner, j'ai appris à cuire, j'ai appris à faire les émaux, enfin toute la fabrication. Et puis ensuite, je suis partie 1 an dans une école qui est à Mulhouse, qui s'appelle la Maison de la Céramique, et qui donc c'était une formation professionnelle qui dure 1 an, où j'ai appris toutes les techniques avec lesquelles on peut travailler la terre et
Et est-ce que vous êtes prête maintenant à vous mettre à votre compte et à vous lancer personnellement dans un atelier et à débuter votre carrière?
Ben oui, puisque je me lance, enfin là je vais bientôt signer un bail pour un local qui sera mon atelier et aussi mon habitation. Donc va bien falloir que je gagne de l'argent avec ma profession. Donc pour ça je vais surtout donner des cours dans un premier temps et puis je vais à côté à mi-temps et puis l'autre moitié du temps je vais essayer de produire et de vendre ensuite. Donc voilà. Ben qu'est-ce que je pourrais dire?
Comment comptez-vous vous faire connaître dans le quartier, vous commencer à vous faire une clientèle?
Une clientèle, je sais pas si je vais essayer de la faire dans le quartier parce que dans le quartier je vais essayer de me faire connaître pour les cours que je vais donner, donc des cours pour les enfants, de modelage ou pour adultes ou bien des cours de tournage aussi. Mais ma clientèle, c'est-à-dire pour vendre mes poteries, je pense que j'irai vendre ailleurs, c'est-à-dire sur des marchés de potiers, ou dans des salons, ou éventuellement dans des galeries d'art. Enfin, ça, c'est pas pour tout de suite. Et donc, ce sera, je pense pas que je vendrai beaucoup sur place, dans mon atelier. Enfin, voilà. Donc.
Est-ce que vous faites des événements entre potiers et est-ce que vous essayez de faire reconnaître le métier?
Des événements entre potiers. Oui, bah j'ai participé à des marchés de potiers, mais pas en tant que. J'avais pas un stand pour vendre, mais j'étais là pour faire des démonstrations de tournage, par exemple, ou bien pour aider un potier à installer son stand, à vendre, etc. Au mois de juillet à Paris, sur la place Saint-Sulpice, je fais ma pub au passage, il y a une manifestation qui s'appelle les Journées de la céramique. C'est le premier week-end de juillet. Et là, bon, bah là, j'aurai pas de stand non plus personnel pour vendre mes pièces, mais par contre, je vais aider à installer, à organiser tout ça, parce que j'ai une amie potière qui fait partie de l'association qui organise ça. Cette manifestation, donc je vais l'aider à installer son stand, à installer d'autres, à installer l'exposition, à tout organiser, quoi.
Est-ce que les potiers sont solidaires entre eux? Est-ce qu'ils cherchent à créer justement, à se rencontrer entre eux? Et
Ouais.
donc,
Ouais, c'est un métier où les gens, comme c'est un métier où on gagne pas beaucoup de sous et où on travaille énormément. Enfin, c'est un métier difficile, quoi, où de toute façon les gens, il y a peu de potiers qui sont riches et qui ont pas de problème de sous. Et donc ça solidifie les liens. Enfin, je veux dire ça. Ouais, ça permet de se rassembler. Ça crée des liens entre les potiers et c'est des relations qu'on verra pas entre artistes dans d'autres domaines où on sera plus, on fera, où chacun fera plus attention à ses propres, à son intérêt, quoi. Là, on s'en fout de...
Et est-ce que vous avez des liens aussi avec d'autres artistes, justement, avec des artisans, mais dans d'autres domaines?
Oui. Oui, j'ai je fais partie d'une association que j'ai créée avec des amis qui font tous des arts plastiques. Alors, ça peut être de la peinture, de la gravure, de la sculpture, du dessin, du théâtre, du cinéma et de l'écriture. C'est à peu près tous les ateliers qu'il pourrait y avoir. Et donc là, ça fait un an que l'association est créée. On travaille ensemble pour faire des expositions. Donc on organise des expositions ou alors on a organisé par exemple pour la fête de la musique l'année dernière, on devait s'occuper des décors, donc créer des décors pour les scènes, pour la rue, donc dans la ville de Vanves. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des expositions en commun. Et par la suite, on aimerait avoir des ateliers, donc des locaux, où on pourrait travailler nous, proposer aux jeunes du quartier de venir travailler de tel jour à telle heure, le dessin ou la peinture ou quoi, et qu'on soit là pour les aider à travailler dans ce domaine, dans les domaines qui leur plaît, leur proposer d'organiser des expositions en fin d'année ou des spectacles ou des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on cherche un local, des sous, si vous êtes généreux et prêt à aider des jeunes créatifs. Ça s'appelle La Rosée, notre association, et voilà, on est prêt à organiser des tas de choses intéressantes, culturelles et artistiques, et voilà.
Est-ce que vous faites des pièces collectives, des œuvres collectives, ou est-ce que chacun travaille de son côté ?
Alors, par exemple, pour la fête de la musique, l'année dernière, c'était un travail collectif, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs toiles grandes, donc qui étaient suspendues à l'extérieur, en face de la mairie et dans un petit parc. Donc ça, c'était un travail commun. Pendant une semaine, on a eu un local et un tout petit peu de subvention pour organiser ça. Donc là, l'étoile était commune. Sinon, en janvier, on a organisé une exposition avec une autre association qui est une compagnie de théâtre qui s'appelle Babylone, qui faisait 3 jours de représentation de leur spectacle. Et ils nous prêtaient une salle dans laquelle on pouvait exposer. Donc là, on a présenté nos œuvres tous ensemble dans la même salle, mais qui étaient des œuvres personnelles. Et on a fait un travail commun qui était un couloir en tissu pour accéder à la salle. Il fallait passer par un couloir en tissu qu'on a fabriqué nous-mêmes, suspendu par des bambous, avec des feuilles mortes par terre. Donc le couloir faisait un petit parcours. Et avec des projections de diapos sur le tissu. Donc ça donnait une ambiance pour arriver ensuite à l'escalier qui menait à la pièce. Donc ça, c'était un travail vraiment commun. Et donc voilà.
Donc finalement, tous les artistes sont solidaires et vous pouvez vous faire votre place de potière dans ce rassemblement d'artistes.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'on est des amis. Et qu'on a envie de travailler ensemble, de s'aider, d'avancer ensemble, quoi. Je pense que dans le domaine, dans le milieu des galeries, des grands peintres, des musées, etc., c'est pas du tout la même relation entre artistes que sur un marché de potiers, par exemple, où là, on est vachement plus solidaire, vachement plus... On est tous dans la même galère, en gros, et on a envie de tous s'entraider, que le métier survive, et que voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans tous les autres domaines artistiques. Voilà.
Et finalement, peut-être que vous pourriez nous indiquer un peu quelles sont les idées reçues du du commun des mortels ou du premier venu sur ce métier, justement, comme vous l'avez dit, qui est un peu en voie de disparition, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'idées reçues, que les gens s'imaginent que c'est un métier. Je sais pas, ils s'imaginent des tas de choses. Par exemple, souvent quand on leur dit comment ça se fabrique, la poterie, etc., on leur dit bah il faut tourner sur un tour de potier, une pièce. Et puis ils s'imaginent que c'est voilà, ça c'est la principale étape de la création d'une pièce, alors que après bah c'est alors que le tournage ne représente qu'une toute partie du travail. Après il faut attendre que ça sèche, ensuite il faut tournasser. Enfin plutôt il faut tournasser, c'est-à-dire faire le pied d'un bol par exemple. Ensuite il faut attendre que ça sèche, ensuite il faut cuire, ensuite il faut poser les mailles. Et cuire une deuxième fois, sachant que la cuisson dure 6 heures et ensuite 6 heures de refroidissement. Donc le tournage, en fait, c'est qu'une toute petite partie du métier. Il y a aussi pétrir la terre, enfin, il y a des tas de choses à côté que les gens ne s'imaginent pas. Et puis, les gens s'imaginent aussi que c'est ah ouais, la poterie, comme dans les années 70, où ça a commencé à devenir fréquent de voir des gens qui partaient dans le sud faire de la poterie, que c'était facile, que c'était et aussi ils ont une image aussi de poterie rustique, traditionnelle, alors qu'on peut faire des milliers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la poterie des années 70 qu'on s'imagine très, très vite dès qu'on parle de poterie, les grès au sel, enfin les tasses, enfin bref, c'est pas facile à décrire, mais voilà quoi. Alors qu'on peut, justement, la céramique aujourd'hui tend à enfin, les gens du métier essayent de, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui se battent pour ça, mais on essaye de faire reconnaître le métier et surtout que les gens réalisent que on peut. Avec la terre, on peut pas seulement faire des poteries utilitaires, traditionnelles, etc., mais qu'on peut faire toutes sortes de sculptures avec, qu'on peut l'utiliser avec de la manière qu'on veut, que ça peut être de l'art contemporain, et aussi que le métier de potier, donc de celui qui fait de l'utilitaire, soit considéré pas seulement comme un artisanat, pas non plus comme un art à lui tout seul, mais enfin, qu'il se soit reconnu comme. Je sais pas comment dire, c'est difficile, quoi, mais comme un métier artistique, ou enfin, je sais pas comment. Quel mot, quel terme utiliser. Enfin, voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous préférez fabriquer finalement, des pots, plats et objets utilitaires, ou plutôt des objets plus figuratif ou alors plus abstrait?
J'aime bien pouvoir faire les deux, ce serait idéal. J'aime beaucoup tourner et avec le tournage faire des pièces utilitaires, parce que après on peut au départ le tournage c'est vrai que c'est fait pour faire des pots, mais après il y a des tas d'artistes, de céramistes qui tournent et qui en fait après qui tournent des formes, qui après les assemblent et créent avec ça des personnages ou des pièces abstraites ou des pièces enfin qui ne sont pas utilitaires quoi. Mais donc moi avec le tournage pour l'instant je fais de l'utilitaire, et j'aime beaucoup faire ça. Et j'aime bien aussi travailler au colombin, c'est une autre technique. J'aime bien travailler avec lesquels je peux faire des grosses pièces, des grosses jarres ou des gros pots. Et puis il y a la technique de la plaque aussi que j'ai découvert justement pendant mon année de formation à Mulhouse, avec lesquels j'ai avec cette technique j'ai fait des pièces uniques, des pièces artistiques on va dire, des sculptures quoi en fait. Et ça, j'aime beaucoup travailler ça aussi, mais ça demande plus de temps, Alors c'est sûr que ça se vend plus cher, donc quand on en vend, ça rapporte des sous, mais on en vend moins souvent et c'est beaucoup de temps passé pour une seule pièce. Enfin, c'est pas la même façon de travailler ni de vendre que des pièces utilitaires, quoi.
Et vous nous avez parlé de différentes techniques, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales?
Ben, y a pas de principale technique, c'est chacun a sa technique ou chacun. Mais ben, alors il y a le tournage, donc qui consiste à monter une pièce ronde, donc sur un tour. Enfin, après je peux pas vous expliquer les gestes, mais voilà. Ensuite il y a, on peut travailler au colombin aussi, donc c'est-à-dire que c'est des boudins en fait. Qu'on superpose les uns sur les autres et qui pour donner la forme d'un pot ou d'autres choses. Il y a le travail à la plaque qui consiste à faire des plaques de terre, donc comme une pâte à pizza. Ensuite de découper dans la plaque la forme qu'on veut et d'assembler ces plaques et ça donne une forme, la forme qu'on a décidé de faire. Ou alors il y a le travail dans la masse. C'est-à-dire qu'on prend un bloc de terre, un pain de terre qui n'a pas de forme, enfin qui a une forme basique, et on modèle dedans. Alors là, c'est vraiment. On sculpte dans la masse, quoi, dans la terre. La seule chose après, c'est que si on veut cuire, enfin là, ça devient technique. Si on veut cuire notre pièce, il faut l'ouvrir pour creuser, pour enlever la terre qui est à l'intérieur et ensuite rassembler. Les deux parties pour pas que ça explose à la cuisson. Enfin, ça c'est un problème technique. Sinon, bah, après chacun a sa façon de. Donc il y a le modelage, le travail à la plaque, le colombin, le tournage. Ensuite il y a la technique du décor et de l'émaillage. Ça c'est autre chose. C'est plus le travail de la terre. Enfin ça va avec, mais on ne travaille plus la terre elle-même. Et puis voilà, et puis la cuisson, enfin tout ça c'est pareil, c'est plus la technique de la terre. C'est plus le travail de la terre elle-même.
Et sinon, à propos des émaux, il paraît que leur fabrication consiste en de véritables formules magiques. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que c'est vous qui les inventez?
Oui, j'ai appris à faire des calculs, enfin des recherches d'émaux. En fait, l'émail, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des minéraux donc qu'on trouve dans la nature, dans la montagne, comme de la craie, du feldspath, ça s'appelle aussi le kaolin, la silice. Donc le quartz, en fait la silice c'est du quartz, enfin bref, tout ça c'est des minéraux. Donc nous le potier quand il utilise ces minéraux, ils sont sous forme de poudre. Et alors après, une fois qu'on a notre formule avec tant de pour 20 kg de tel émail, il faudra tant de grammes de kaolin, tant de grammes de feldspath, tant de grammes de fer, tant de grammes de... etc. Et donc tout ça, on mélange toutes les poudres ensemble, on met de l'eau, et ensuite on applique l'émail sur la pièce en terre qui est déjà cuite, et ensuite on met ça au four, ça cuit à 1300 degrés, enfin pour le grès, parce que moi je travaille le grès, mais il y a d'autres termes, enfin c'est autre chose, je pourrais vous expliquer. Donc une fois que la pièce est cuite et qu'on a mis l'émail dessus, ça va au four, ça cuit à 1300 degrés et là l'émail se vitrifie, donc notre petit mélange de minéraux bien dosés avec notre petite formule chimique magique, et là, ça se vitrifie, c'est-à-dire que ça devient solide comme du verre ou comme une roche, c'est une transformation de matière en fait qui est irréversible, puisque même si ça peut pas redevenir de la poudre, quoi. Ça peut pas redevenir les minéraux que c'était avant. C'est devenu une autre matière. Donc il y a eu transformation de matière. Et voilà, bah, ça ressemble à du verre, quoi. C'est, voilà.
Donc, en fait, on peut dire que ce métier est à la fois très terrien, proche de la terre, donc concret, pur et dur, quoi. Mais il est aussi... Il faut aussi beaucoup de recherche finalement pour arriver à maîtriser le métier, et donc il est assez scientifique.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. C'est à la fois très concret, à la fois très abstrait dans la recherche esthétique ou dans la recherche artistique, etc. Et à la fois très scientifique parce que bah, y a des calculs des mots, il y a aussi la cuisson qui est aussi tout un métier. La cuisson, bah ça s'apprend, quoi. Faut savoir surveiller un four, enfin diriger un four. Faut comprendre pourquoi l'émail ressort vert et pas bleu, ou ressort avec plein de bulles, ou tout lisse, ou rugueux, ou mat, ou brillant. Faut savoir analyser tout ça. Et à ça, il y a des réponses effectivement scientifiques, ou aussi la loi du hasard. Qui intervient aussi parfois. Enfin, voilà. Et voilà. Il y a autre chose aussi que je voulais dire à propos des différentes terres, et de justement de l'idée reçue que se font les gens de la poterie. En général, les gens ne savent pas la différence entre le mot terre, argile, terre cuite. Poterie, céramique, pour eux ils mélangent tout ça et c'est un peu la même chose. Et en fait, enfin, il faut savoir faire la différence entre faïence, grès, etc. En fait, la terre et l'argile c'est pareil, c'est la terre qu'on trouve par terre dans la montagne, voilà. Et après il y a différentes sortes de terres, il y a de la faïence, du grès et de la porcelaine. Ça c'est trois types de terres qui existent. Et la différence se fait, en fait, la faïence cuit à 980 degrés, le grès peut cuire à 1300 degrés, 1280, et la porcelaine cuit encore au-dessus, au-dessus de 1300, entre 1350 et 1400 degrés. Donc les gens confondent tout le temps ces trois types de terre, ils croient que c'est la même chose, enfin c'est un amalgame. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Donc en fait, là oui, quand on dit que la faïence cuit à 980 degrés, ça veut dire que si on la cuit à 1200 degrés, eh ben, elle va fondre complètement et ça va devenir une flaque. Elle va fondre vraiment, quoi, littéralement. Et devenir, ça nous est déjà arrivé de cuire sans le vouloir de la faïence dans un four à grès, c'est-à-dire qui montait à 1280 degrés. Et c'est devenu, il n'y avait plus de l'objet, était devenu complètement une flaque qui s'est vitrifiée, donc puisque après, une flaque de verre, quoi. Voilà. Et voilà, ça c'est la différence entre les différentes terres, et tout ça c'est de l'argile.
Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement au-dessus de tout dans ce métier même?
Moi je crois que ce qui m'attire dans ce métier c'est surtout le contact avec la terre. C'est quand je travaille la terre, je suis vraiment dans mon monde isolé complètement, et c'est là où je prends le plus de plaisir vraiment, quoi. C'est réaliser quelque chose entre mes mains et en plus avec un plaisir physique, je dirais, quoi. C'est presque le contact avec la terre, le toucher, le ce que je ressens, quoi. Voilà.
Moi, ça me fait penser à la création du premier homme.
Ouais, c'est un peu ça. Il y a de ça. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, il y a un grand artiste sénégalais qui s'appelle Ousmane Sow, qui expose en ce moment sur le Pont des Arts à Paris. Et effectivement, on peut parler de création de l'homme, parce que lui... Donc il travaille au Sénégal avec la terre de son pays, la terre qu'il trouve là-bas, et il crée des personnages de taille humaine ou même un plus grand, et qui sont d'une expression, enfin qui sont vraiment, on a l'impression qu'ils sont réels, quoi. Quand ils sont sous nos yeux, on a l'impression qu'ils sont là, vivants, en train de respirer, avec des muscles qui sont en train de bouger. Souvent c'est des personnages en action, en guerre, enfin ils représentent des Africains de son pays, des Peuls et des Maasai, etc. Et effectivement, c'est un peu ça. Il a créé son peuple, quoi. Ses personnages. Et... Voilà.